Ce soir, je propose brièvement de parler comment nous, les disciples de Jésus-Christ, les croyants, les nés de nouveau, quelle est notre perspective sur le sujet de la mort? Seigneur, bénis cette parole dans ton nom. Gloria, Amen. Genèse chapitre 2, verset 17 dit, si on va tourner là, ça va être mieux. 2:17 du livre de Genèse. Adam, mais si tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de bien et mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Donc voilà un avertissement. Tu vas manger, les conséquences de manger cette fruit, la désobéissance et la mort. Ne mange pas. Vive. Choisis de vivre. Parce qu'il y a des conséquences. C'est la première fois, évidemment, le mort entre dans le monde. Apocalypse chapitre 21, verset 4. Et ça, c'est un espoir pour nous. Il essuiera toute l'âme de les yeux. Et l'amour ne sera plus. On arrête là. Et maintenant, avec ces deux versets principaux, je propose d'aborder quelques points importants pour nous de savoir sur la mort. Et c'est un sujet qui va nous toucher. Parce que chacun va mourir si on n'est pas enlevé. Donc, le premier point est tellement important. Imaginons le grandeur de Dieu. Imaginons que tout ce que nous avons entendu. Dieu a créé l'homme dans son image et le plan n'était que jamais l'homme meure. C'était jamais le plan. On a déjà lu le verset principal, Genèse 2, 17. Si tu m'obéis, tu vas pas mourir. Mais si tu choisis de désobéir, tu vas mourir. Et les conséquences de ça va passer, être transmis dans toutes les générations de l'homme. Tous les hommes, toutes les femmes, tous ceux qui sont nés, tu passes pas avec cette même ADN. L'amour est transmis, le péché est transmis, les conséquences, chacun va mourir. Et c'était jamais le plan de Dieu. Et il parle sans cesse de dire, je veux que tu vives devant moi. Samuel, il a dit, j'ai choisi un prophète. Il a dit, Élie. Je crois que c'est 1 Samuel chapitre 2. Il a dit, je choisis quelqu'un qui va marcher devant moi, Messie, devant lui qui est roi. Ça veut dire le Messie, ça veut dire Jésus-Christ, qui va marcher et vivre devant lui pour éternité. Voir le perspective de Dieu est que l'amour est une réalité maintenant, mais je veux que chacun vive pour éternité devant moi. Il veut ça. Et c'est important pour nous de savoir que l'amour existe. Mais l'amour n'est pas le dernier mot. Dieu a le dernier mot. Ça, c'est important. Donc, première chose, c'était pas le plan de Dieu. Et quand les gens nous accusent ou posent la question, pourquoi la souffrance, pourquoi la mort, quel Dieu qui peut faire ça? Et on répond, c'était jamais le plan de Dieu. C'est évidemment les conséquences de la désobéissance de l'homme. L'homme va pourrir pourrir le pot, va toujours mélanger les choses et on va avoir le chaos. Parce que quand l'homme naturel entre dans l'équation, dans la mathématique, ça va pas marcher. Mais Dieu veut que les gens peuvent vivre pour éternité avec lui. Et on peut fixer nos yeux sur ça. La deuxième chose, chacun, 1 roi chapitre 2 verset 2, David dit, Solomon, le moment que je vais mourir approche. Je vais passer par le même voyage, le même trajet que tout le monde. Il est en train de dire, c'est quelque chose, pas normal, mais c'est quelque chose qu'on doit accepter. on va tous mourir. David dit ça, il dit, bientôt je vais mourir. Bientôt je vais subir la même cessation de la vie. Je vais passer dans cette passage et je vais mourir comme tout le monde. Et on peut, le problème de l'homme, le problème de chacun de nous, je parle pas de nous maintenant autour de cette table, mais l'humanité, et on essaie d'ignorer cette fête. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Première chose, on essaie de utiliser les mots par le mort. On va dire, quelqu'un a passé de l'autre côté. On utilise plusieurs synonymes, plusieurs paroles, mais on dit pas quelqu'un est mort. Voir comment les gens expliquent. Oui, il est maintenant ailleurs, il est dans une bonne place, mais il est mort. Elle est mort. Il faut confronter ça. Aussi, voir comment les cimetières sont souvent dos de la ville. C'est très rare. Le Weshliba, dans les, en vallée, le cimetière est au milieu de la ville. Ça, c'est rare, mais c'est un petit village dans les Alpes. Mais de voir que normalement, les cimetières sont placés dos en France, particulièrement et en Espagne, je note qu'ils sont loin. Les gens ne veulent pas voir la réalité qu'est le tombeau et de voir ça. Et moi, j'aime de faire ça, et on peut dire c'est un peu étrange, un peu bizarre pour moi de visiter les cimetières. Mais des fois, je visite, j'entre dans un cimetière parce que je veux voir ça. Et comme en Ecclésiaste, quand Solomon a dit, c'est mieux d'aller dans une maison de deuil que dans une maison de fête. Parce que c'est le passage pour l'homme. Et ça amène une attitude grave et sérieuse. C'est pas qu'on peut parler, on est la joie. Mais c'est de dire, je suis confronté avec la réalité de comment on va finir nos jours. Ça amène en fait la vie d'une autre qualité, mais on parlait de ça dans une minute. Évidemment, sauf pour l'enlèvement et sauf pour deux exemples des hommes qui ont évité la mort, Enoch en Genèse chapitre 5, et c'était, je cherche pour le passage, 2 Rois chapitre 2 verset 11, Élie qui était pris dans un tourbillon, dans un chariot au ciel. Sauf pour ces deux et sauf pour la génération de l'Église, pendant le moment d'enlèvement, le reste de nous va mourir. Donc, c'est d'accepter cette réalité. Bien sûr, on espère en être enlevé. On espère pour ce moment. Mais il faut savoir, pour une grande majorité de les croyants dans l'époque de l'Église, la mort est une réalité. Chacun doit passer. Donc ça, c'est le deuxième point. Premier point, c'était jamais le plan. Deuxième, c'est personne va échapper. On dit en anglais, no one's getting out of this alive. Personne va sauter de la terre vivant. C'est vraiment choquant, mais il faut confronter la réalité. Troisième, Moïse, en chapitre, en psaume 90, il parle, il faut savoir, Moïse a vécu 120 ans. En trois parties, sa vie était divisée en trois parties. Le premier 40 ans, en Égypte, profité, il était privilégié. Après, il y a tout en Égypte, on passe la deuxième phase de sa vie. Une deuxième vie, en exil, berger, dans le désert. Et le troisième, il retourne, dernier 40 ans, il retourne en Égypte, il dit, Pharaon, libérez le peuple. Et ils sont libérés et passent 40 ans dans le désert. Il faut savoir une chose particulièrement de Moïse. À la fin de Deutéronome, c'est noté que au fin, il a gardé la vigueur de la vie. Il n'était pas épuisé. Ça, c'est exceptionnel. parce qu'il est en train de conduire le peuple. Et le deuxième, c'était ses yeux sont parfaits. 20-20 vision. 20 sur 20 vision. Imaginons ça. Des opticiens. Si tout le monde peut profiter de ça, on n'a pas besoin des opticiens. Ophtalmologues, comme vous voulez, tous en chômage. Sachant que Moïse a crié qu'on va tous mourir. Il est dit que par la force, c'est possible 80 ans. Mais normalement, ça va être 70 ans, 70 ans. Mais peut-être pas exception. Et lui, il a vécu 120 ans, mais il est toujours cette réalité que la vie est courte. Et quand on comprend la vie est courte, on est plus sérieux avec ça. On est mesuré dans les moments parce que la vie est courte et je ne veux pas passer à côté de quelque chose. Je réalise. Des fois, on dort spirituellement, c'est vrai. Des fois, on est absorbé avec la vie. Mais de savoir qu'on a une vie qui est courte, comme les fleurs, comme l'herbe, la vie naturelle de l'homme va finir, mais la parole de Dieu va rester pour éternité, va durer pour éternité. Et donc, c'est important de savoir ça, la vie est courte. Donc, on est né il y a un certain temps et on va mourir. Et quelque chose d'autre, pas pour compliquer, mais Pasteur Stevens a dit, on ne sait pas l'heure ou jour on va mourir, mais si quelqu'un peut voir dans le... Je vais essayer d'expliquer ça. Si quelqu'un meurt à 30 ans et quelqu'un autre meurt à 70 ans, okay, il arrive de la fin de sa vie, mais en sachant, oh wow, je meurs à 30 ans. L'idée est ça. On pense tous qu'on va vivre juste de tel âge. Ok, j'ai 80 ans, etc. Mais quelqu'un qui va à 30 ans est vieux. Il arrive de 29 ans et c'est comme, voilà, j'ai un année qui reste. J'explique pas très bien, je vais passer à côté de ça, oublie ça. Il a parlé de quelque chose que je peux pas expliquer ce soir. Mais en bref, profitons de le temps que nous avons sur la terre parce que c'est court. Profitons de ces moments sur la terre pour gagner des âmes. C'est court. Le temps est court pour dire « je t'aime ». Le temps est court pour réconciliation avec les gens. Le temps est court. Donc, profitons de ces moments comme les valeurs. Ça veut dire que c'est nous-mêmes d'une attitude de pas jouer un jeu. C'est une attitude d'aimer et d'être sérieux et de toucher les gens, chercher les gens, afin que les gens soient sauvés pour Christ. Quatrième point. C'est bref, ce point. Dieu connaît notre jour de naissance et notre jour de mourir. Et Psaume 139 est magnifique par les paroles de cette magnitude, cette connaissance, omniscience de Dieu. Et verset 139, verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyant, et sur ton livre était tout inscrire les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Ça veut dire, mes jours sont dans un livre. Dieu connaît le moment de naissance et le moment de passer en éternité. Moi, je connais pas. Merci Seigneur. Cherchons pas tous ces films, toutes ces histoires, tous ces livres qui imaginent que quelqu'un connaît ce futur. On n'a pas besoin de savoir des choses. Dieu connaît, ça c'est suffisant pour nous. On fait connaissance, on fait confiance en Dieu et on ne cherche pas de savoir des choses qui est interdit de savoir. Donc imagine si c'est possible, il faut dire non. Je préfère pas de savoir. Je vais vivre par la foi et pas marcher par le vœu. Parce qu'en réalité, si demain je vais mourir et aujourd'hui je sais maintenant, est-ce que je vais profiter de ça ou est-ce que je vais abuser ça peut-être? Mais si je connais pas le jour et l'heure, je vais vivre dans la foi, dans un suspense que peut-être c'est demain et peut-être c'est en 10 ans. Mais je peux gagner le temps et vivre pleinement le temps que j'ai. Ça, c'est le 4e point. Le 5e point, chacun doit mourir, j'ai déjà dit, c'est réservé aux hommes en Hébreux chapitre 9, verset 27, de mourir une seule fois. Pas deux fois, c'est pas réincarnation, c'est une fois physiquement et pour ceux qui refusent Christ, deuxième fois, c'est la deuxième mort. Ça, c'est Apocalypse, j'ai pas de faire ces références sur mes yeux, mais c'est Apocalypse 20. Que quelqu'un va mourir deux fois. Les seules exceptions de ça, Lazare, par exemple, qui est mort deux fois, physiquement, ressuscité, et après, il meurt après ça. Je ne sais pas depuis combien de temps. Nous avons aussi des exceptions. Élie a ressuscité quelqu'un. Élisée a ressuscité quelqu'un. Dans l'Ancien Testament, nous avons Paul qui a ressuscité quelqu'un dans le livre des Actes. Est-ce que c'est Actes chapitre 20? Nous avons également Jésus ressuscité un homme dans son, pas le tombeau, le cercueil, avec sa mère, en train de pleurer pendant le cérémonie, dans la procession. Il ressuscité, la fille de Jairus aussi. Je vois qu'il y a des exceptions, mais normalement, on va mourir une fois, et après, c'est le jugement pour le non-croyant, et pas le jugement pour nous. Donc ça, c'est le 5e point. Il faut savoir ça physiquement. Normalement, on va tous mourir. Le 6e point, j'arrive. Hébreux chapitre 2, versets 14 et 15. Hébreux chapitre 2, 14 et 15. La peur. Et c'est pas de le diable en verset 14. C'est dire le diable. Ok, on va lire 14 pour le contexte. Ainsi donc, puisque les enfants participe au sang et à la chair, il est également participé lui-même afin que par la mort, il ait anéanti celui qui a la puissance de la mort. La puissance, c'est-à-dire le diable. Verset 15, et qu'il délivra tous ceux qui n'ont pas la crainte de la mort, étant toute leur vie retenue dans la servitude. Servitude, parce qu'il est crainte de mourir. Chacun avec cette crainte. J'avais cette crainte quand j'étais un enfant. Et des fois, je pense que les gens sont paralysés. Il y a quelques possibilités. Quelqu'un qui est tellement prend les risques va essayer de vivre une vie passage. Il défie la mort, c'est ça. Il conduit une voiture tellement comme ça. J'entends des exemples, des acteurs qui aiment James Dean. James Dean est un exemple. Il aime de conduire les voitures tellement vite, mort quand il était jeune. 33 ans. Combien? Le 27e, le club de 27 ans. Nous avons sept, je pense, musiciens morts à l'âge de 27 ans. Amy Whitehouse, Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Jim Morrison. On est sept ou huit qui sont morts à l'âge de 27 ans. Est-ce que c'est significant? Est-ce qu'ils ont une raison pour 27 ans? Je ne sais pas. Mais ils ont vécu une vie, on peut dire, sans sagesse de vivre la vie et après, bouf. Jim Morrison mort dans un bagnon à Paris, Bagnon? Et Benoît. Benoît à Paris, comme ça, 27 ans. Je peux pas commenter pour les autres, mais c'était la folie de vivre une vie, on dit en anglais l'expression est live fast, die young. Vivre vite, mourir jeune. Vois ça. L'autre possibilité de vivre une vie est de vivre une vie de paralysis, d'être tellement craintif de éviter tous les risques. Ok, je vais pas passer sur le pont parce que le pont va tomber sur moi. Je vais pas conduire la voiture. Je vais vérifier 3 fois si la voiture est en bonne forme. Je vais vérifier les freins. Est-ce que c'est bien? Je vais fermer les portes. C'est des gens qui vivent dans une prison, en fait. Et la prison est je vais pas prendre les risques. Ok, je vais pas manger ça. Je vais pas boire ça. Et on peut vivre une vie sans risque comme ça. Mais quelle vie? À quel avantage? De vivre comme ça, comme je vais éviter tous les risques. Voir avec l'assurance, je pense aux États-Unis, ils sont obsédés avec pas de prendre des risques. On va pas faire attention avec ça. Et je peux pas entrer dans les détails de ça, mais la société maintenant est tellement consciente de protéger contre les risques. Mais la vie est un risque. On peut pas éviter de prendre des risques. Et donc, voir que il est deux côtés. Le côté extrême de cette côté d'être obsédé de faire des choses folles et de l'autre côté d'être tellement, quel est le mot? Prudent. Qu'on va éviter de prendre le risque. On vit, en fait, la personne est prête pour le boîte déjà. Juste mettre dans la boîte parce qu'ils vivent dans une boîte. Voir, là, ça, c'est le diable. Il amène les gens de vivre ça, mais la bonne nouvelle est on ne vit pas comme ça. On peut vivre une vie de plein de mesures. Les Hanhutters, avec Karl Zinzendorf, les Moravians, le mouvement de Morave, ils sont les missionnaires 6e siècle, je crois, ou le 17e siècle. Et eux, ils ont décidé d'accepter de voyager, d'amener Christ parce qu'il est un réveil. Qu'est-ce qu'ils ont pris? Ils ont pris les secours dans les bateaux avec eux parce qu'ils s'accueillent dans les bateaux parce qu'ils ont accepté qu'il va mourir dans les champs missionnaires. C'est une réalité. Donc, ils ont confronté avec le mot. Ils disent, mais on va vivre pour Christ. Pour faire la même chose. Si je vais mourir, je vais mourir. Esther accepte pas de faire des choses folles non plus. Elle dit, pour mon peuple, je vais accéder le roi et si je meurs, je meurs. Donc, voir que c'est pas une question de prendre excessivement le risque, c'est de marcher par la foi, d'être conduit par le Saint-Esprit et de dire, ok, je vais accepter de prendre le risque conduit par le Seigneur. Je ne vais pas excessif dans cet côté ni cet côté. Donc ça, c'est la peur qui limite les gens. Mais la chose clé, j'ai 9 points, je pense que j'ai 7 points. La vie après est important parce qu'il faut savoir que on accepte qu'on va être avec Christ. Le problème avec le mort et les gens, peut-être on ne veut pas mourir dans le sens d'être tué par quelqu'un ou d'expérimenter une maladie progressive qui va dégénérer le corps et le cerveau. On ne veut pas vivre ça, évidemment. En même temps, je crois que la chose qui est aussi frappante est de penser qu'est-ce qui va passer après la mort. Et ça, c'est le problème pour plusieurs de dire, mais quel m'attend après? Est-ce qu'il y a quelque chose après? Et c'est la chose aussi, non, je vais arrêter cette parenthèse avant de dire, mais c'est cette attitude, je ne sais pas qu'est-ce qui va passer après, mais Jésus-Christ, le seul qui a passé cette voyage, qui a traversé entre la vie et la mort, qui est entré au ciel, a retourné pour dire il a une vie après, et donc s'il n'était pas Dieu, et il est Dieu, le fait qu'il était devant et de dire il y a quelque chose après, c'est la vie avec Dieu. Ça, c'est déjà une assurance. Mais qu'il est Dieu et il a vaincu le mort et quelque chose plus. Et de dire en plus de ça, avant de partir, Jean chapitre 14, je veux, Pierre, je veux, vous disciples, que vous n'avez pas le craint, que vous vivez pleinement cette vie et acceptez que je vais partir, mais je vais vous retourner pour vous. Et je vais venir pour vous chercher. J'ai réservé des maisons pour chacun. Et si c'était pas le cas, pourquoi que je dis ça? Je dis ça et c'est le cas. Donc, il y a une maison pour chacun de nous. Déjà fait dans les couleurs appropriées, dans le style approprié pour chacun de nous. Donc, pour les Français et les Françaises, un style pour les Suisses, un autre style pour les Américains, un autre style pour les Espagnols, un autre style pour les Britanniques, un autre style, voilà. En bref, il y a quelque chose fait à la mesure. C'est pas à la carte. C'est à la mesure pour chacun. Et Dieu est en train de dire, il est quelque chose de plus glorieux. Luc chapitre 16 parle de parle de l'homme riche et de Lazare, est en train de décrire quelque chose. Évidemment, c'est avant le quoi, donc il y a une signification que je propose pas d'entrer ce soir. Mais pour dire qu'il dit que Lazare était amené par les anges dans la présence de Dieu. En fait, il est dans le sein d'Abraham. Sein d'Abraham. Mais le clé est ça, il est dans la présence de Dieu. Amené par les anges. Ça veut dire qu'il y a un comité prêt pour nous accueillir en plus. Et il y a des gens, les anges, pour nous accompagner. Étienne, il était accueillir au ciel et nous aussi. Donc, tu vois, il y a un après. Et quand nous avons cette vision d'après, c'est venu consoler énormément. Parce que quand on fait ce passage, l'amour va être la réalité d'arrêter de respirer. C'est un moment. Mais la vie après, c'est plus immense, plus qu'on peut imaginer. Plus, est-ce que c'était Billy Graham qui a dit, le jour où tu entends la nouvelle de ma mort, il faut savoir quelque chose. Je suis plus vivant que jamais. C'est pas vrai. Maintenant, je vis une vie supérieure de la vie que vous avez sur la terre. Donc, c'est vrai qu'il a gagné Christ. Et il a dit, comme Paul, il a dit, je suis tiré dans deux directions. Je vais être présent avec Dieu et absent de la corps. Ou je peux être présent avec vous et absent de Dieu. Je suis tiré dans les deux directions, il a dit, mais j'accepte pour le moment de rester avec vous. Et nous, on peut avoir cette attitude. On peut être de plus en plus attiré vers lui quand on voit qu'il est quelque chose de plus glorieux. Et pour le moment, le corps de Christ est magnifique, mais quelque chose de plus nous attend. Huitième point, et on est presque là. Séparation est tellement... La séparation est la chose la plus difficile. Le deuil de le fait que quelqu'un a passé. Pour nous, de passer entre éternité, c'est être un fait pour nous. Mais ce qui reste, ça va être le plus difficile. Croyant ou non-croyant, si la personne est sauvée et il passe en éternité, entrer dans la présence de Dieu, la séparation est toujours douloureuse. Je ne peux pas parler de ça à la légère parce que il faut accepter de au revoir, mais le joie est de savoir, on va dire bonjour dans le futur parce qu'on va être présent avec cette personne. Mais il faut accepter que c'est pas facile, c'est difficile. Acte chapitre 8, verset 2. Le deuil par les hommes dévoués qui sont amenés le corps d'Étienne et ils ont pleuré. Donc, juste parce que nous sommes chrétiens nés de nouveau, nous sommes en marche par l'esprit, vivent par l'esprit, c'est normal. On va pleurer pour les gens. On va être complètement bouleversé. Ça va être un passage, un temps. Il faut accepter. Chacun doit passer par ça. Plus douloureux quand c'est non-croyant, plus douloureux. Si vous avez, je ne sais pas si vous avez entendu la dévotion que j'ai eue aujourd'hui, mais j'ai parlé de ça. Mais Dieu est le Dieu de consolation, 2 Corinthiens chapitre 1. Il est le Dieu de consolation. Jean chapitre 14, le Saint-Esprit est le consolateur, le autre consolateur qui vient avec nous. Et dans les passages de notre vie, la grâce est là pour nous aider à traverser cette deuil. Et donc, pour nous, quand c'est le monde de passion d'éternité, on est pleinement dans la présence de Dieu, c'est vrai de joie. Pour ceux qui restent, il faut accepter les séparations, accepter que c'est un temps de séparation, un temps de dire au revoir, un temps de pleurer, un temps de rappeler les bons souvenirs. C'est pas quelque chose de léger. Et rien va nous préparer pour ça. Chaque deuil va être différent. Chaque séparation est différente parce que peut-être quelqu'un qui est proche de sa mère ou son père, ça va être tellement difficile. Les mots que j'exprime sont pas suffisamment pour expliquer tout ce qui est derrière. Il faut vivre ça. Pour comprendre le deuil, il faut vivre ça et personne ne peut expliquer ça. J'ai lu les livres de conseils sur ça, mais quand on vit ça, c'est quelque chose d'autre. Et nous, autour de la table, peut-être on a déjà expérimenté ça de 1, 2, je ne sais pas, membre de famille, des amis. J'ai perdu une amie de 35 ans. Je rappelle, elle s'appelle Joanne. Elle était pas coin, donc. Mais elle était une amie de longue date. On a fait l'aïkido ensemble. Elle était une bonne amie. Et elle est morte. 35 ans, j'étais ici, en Suisse quand c'est passé. Mort de cet âge, de complications de diabétes. Mon père aussi, mes grands-parents. Bien sûr, quand on est plus proche, la différence, mais on peut pas expliquer ça. Mais une chose est sûre, le Seigneur est là avec nous dans ce voyage. Et quand nous avons expérimenté ça, peut-être on est plus capable d'aider les autres. C.S. Lewis, un livre, il parle, et c'est très court. Je ne sais pas si c'est possible d'obtenir en français, mais c'est un bon livre. Brèvement, ça s'appelle... Non, c'est un autre livre, c'est très bref, c'est un autre style de C.S. Lewis. C'est parle de le deuil qu'il a expérimenté quand Joy Grissom, sa femme, meurt. C'est très court, c'est 4 chapitres, 10 chapitres. C'est un style différent. C.S. Lewis exprime son douleur. Je vous encourage, si possible d'obtenir ça en français, lis ça, parce que c'est tellement... Tu vois l'autre côté d'un homme qui est un brillant en intelligence, académique, brillant, C.S. Lewis. Mais les vagues de douleur, les doutes, les moments, tu peux voir ça exprimé dans un... C'est pas un livre, c'est plutôt un rassemblement des émotions et des moments. Mais il arrive au fin et il a dit, wow, et une chose, je ne sais pas si je vais arriver à dire ça, peut-être pas, mais il exprime une joie quand il accepte de laisser Joy de partir. Oui, et c'était possible de voir sa vigilance partout. Avant ça, il était un prisonnier avec le deuil. Et lui, en gardant tous ses mémoires, tous pour vraiment garder, c'est comme il a commencé à oublier sa visage. C'est comme les souvenirs commencent à disparaître. Mais le moment où il a accepté de dire au revoir, il a dit, wow. Tous ces souvenirs ont retourné dans tous les couleurs, tous les mesures. Et donc, c'était en train de dire, il a appris comment il faut dire au revoir à sa femme. Et donc, encore, c'est pas quelque chose qu'on ne peut pas exprimer dans le sens de... On peut parler de ce sujet. C'est un très important. C'est partie de la Bible. Ah oui? Apprendre la mort, c'est exit en français. Très bien. C'est bien de lire ça. Très bien. C'est très court. Je lis ça dans un oui. C.S. Lewis, oui. Oui, c'est ça. A grief of... Oui, c'est vraiment, vraiment bien. Et donc, je vais terminer avec ça de juste simplement dire notre consolation est le dernier point, neuvième point. Notre consolation est ça. Un jour, ça va finir. Un jour, il n'y a plus de mort. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 54-57, c'est le fameux passage qui parle de l'enlèvement, d'avoir ça. Il a dit que la mort va être égloutie, 54, de verset 57. Et il a dit, 55, Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Aiguillon. Il parle de le fait que la mort va finir. Le Seigneur va avoir une dernière parole. Et ça amène de fermer la boucle. Le même Dieu qui est habillé avec la lumière, le même Dieu qui vole sur le vent, qui est la lumière, qui a gardé ses trésors dans les lieux cachés, dans l'obscurité. Le même Dieu qui a créé le monde, le même Dieu qui parle et la lumière vient. Et le même Dieu qui va dire un jour, la mort n'existe plus. La mort ne sera, non, je n'arrive pas. La mort ne sera plus. Et ça, c'est notre espoir. Un jour, réuni avec le Seigneur, réunis avec un corps glorifié en plus. Et de voir que ce passage est juste ça, c'est juste une période de temps. C'est tellement un test. C'est comme quand on était enfants à l'école. Est-ce qu'on a rappelé ça? À l'école, on était en train de dire, wow, c'est le premier jour. Est-ce qu'on a rappelé comment après le temps est passé? On arrive à la fin et on est diplômé, on finit l'école, on part. Et on dit, wow, c'était tellement, le temps est passé tellement vite. Et je vous assure, on va arriver devant Dieu et on va dire, wow, c'est fini. On est là. Et ça va être, wow, la vie était finie. Il a dit, oui. Et maintenant, la vraie vie commence. Et la fin de le livre, la dernière bataille de C.S. Lewis, c'est le dernier sur la série de la Chronique de Narnia. Il parle de ça. Il parle de ce passage et c'est fini. Il dit maintenant la vie commence. Et maintenant, on est dans ces derniers jours. Et un jour, la vie recommence. Et on va dire, wow, maintenant c'est la vraie vie. Et maintenant, je suis avec un corps qui ne va jamais détruire, jamais être corrompu. Et donc, avec nous, on voit l'âge pour le moment en train de dire, wow. Wow, je regarde mon visage dans le miroir, je dis, ouf, les choses ne marchent plus comme avant quand j'étais plus jeune. Mais ça finit dans un jour et ça va être, on va être avec lui. Et ce passage de temps va être tellement vite. Je ne sais pas où le temps passe maintenant. On accélère, le temps accélère de plus en plus, du jour sont de plus en plus, on a une impression plus en plus courte. Donc, de terminer ça un jour, bientôt, très bientôt, que Dieu vous bénisse.